Bonsoir, eh bien on va se livrer, oula, j'ai la voix qui déraille.
Onde noire, le retour sur Agora.
Donc on va se livrer à un petit exercice qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, c'est de vous présenter quelques nouveautés pas chères, c'est-à-dire sorties en livre de poche, et en gros des rééditions qui vous permettent soit de découvrir un auteur, soit de vous procurer des livres dont vous auriez entendu parler et que le prix du grand format vous en a un petit peu découragé. Donc chez Point Seuil Thriller, un livre dont on avait parlé à l'époque, La dernière arme de Philippe Leroy. Alors Philippe Leroy, c'est un des grands spécialistes du thriller en France, pour moi un des meilleurs. Et dans ce dernier opus, oui c'est bien le dernier livre paru dans cette série, on retrouve son personnage principal, Nathan Love, qui est le héros en quelque sorte de Leroy, qui est sur la piste d'un secret et d'un complot qui dépasse largement les frontières des États. Au début, très rapidement, des mystérieux enlèvements, très très mystérieux, presque magiques on va dire, de femmes belles, intelligentes et proches des grands de ce monde. Donc on pense tout de suite à un complot international et c'est pour ça que certains responsables font appel à Nathan Love. C'est un livre qui est écrit et à 200 à l'heure et qui est un pur régal. Vraiment, c'est pas mon style préféré, les thrillers, mais là vraiment, c'est un livre que j'ai pas lâché.
C'est assez difficile à lâcher, effectivement. Et je voulais juste, puisqu'on parlait de Philippe Leroy, parler d'un roman dont on voulait parler un moment et puis finalement on a manque de temps, donc
un
on va faire un petit un roman de Philippe Leroy qui est un format poche qui est paru aux éditions Baleine, qui s'appelle Léviathan, voilà, comme Léviathan et puis Town, la ville. C'est un roman de la série Le Club Van Essling.
Donc, alors, faut que tu dises un petit peu qu'est-ce que c'est que cette
deux mots sur Le Club Van Essling. En fait, c'est donc une série de un peu à la manière du Poulpe. Donc, il y a une Bible et chaque fois un
ça
auteur.
Ça ne veut pas dire que c'est religieux du tout.
Non, non.
Hein.
Et en fait, donc il y a un contexte et chaque fois un auteur différent va reprendre le flambeau de l'histoire. Donc, en fait, ce Club Van Essling, ce sont. Comment dire.
Un groupe d'individus,
voilà, qui chassent des êtres.
Maléfiques
et surnaturels. Donc, dans ce cas-là, c'est le Léviathan. Qui s'est, disons, incorporé, voilà, dans la nouvelle, dans la Freedom Tower, qui est le bâtiment que les Américains vont construire ou sont en train de construire sur à l'emplacement du World Trade Center.
Voilà, alors, pardon, excusez-moi. Philippe Leroy, c'est donc un spécialiste des arts martiaux et il y en a beaucoup dans ce
voilà,
livre.
Voilà, celui-là aussi va à 200 à l'heure. Bon, alors évidemment. On n'y croit pas une seconde, mais quand on rentre dans le livre, il faut y croire parce que ça marche bien. Il y a des monstres qui sortent des murs, enfin, il y a des ascenseurs bizarres.
Très distrayant.
C'est très, très distrayant et c'est.
Et il y a la patte de Philippe Leroy,
voilà,
c'est-à-dire une vraie écriture,
une
vraie
écriture,
belle écriture.
C'est pas un simple exercice de style. Voilà. Léviathan de Philippe Leroy chez Baleine, dans le Club Van Essling.
Donc, toujours pareil, à Point Seuil Policier. Un livre qui est paru, si je ne m'abuse, il y a à peu près un an, La Voix, d'Arnaldur Indridason, dont je vais reparler dans quelques instants pour sa dernière parution. Donc là, c'est le troisième opus de cet Islandais qui est paru chez Métayer, comme je vous le disais, en 2006, je pense, ou 2007, début 2007. Bon, je vous le conseille, il est très très bien, mais par rapport à celui dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est un petit peu un cran en dessous. Par contre, c'est toujours pareil, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une bonne manière de commencer par ces rééditions. Je cite de mémoire, donc excusez-moi si j'ai un trou. Le premier, c'est La Cité des Jars, et le deuxième, La Femme en Vert. Je sais plus le premier et le deuxième, mais en tout cas, les trois sont réédités chez Point Seuil Policier, et c'est vraiment à découvrir si vous ne connaissez pas. On va passer à une autre collection de poches. À mon avis, une des plus intéressantes, avec un grand choix éditorial très très varié et des prix très serrés. Donc, Joaquim Sebastiano Valdez, Celui qui sait lire le sang. Je précise, Celui qui sait lire le sang, c'est pas Joaquim, c'est le titre du livre. C'est un livre paru à l'origine chez Les Cahiers du Sud.
Voilà, dont on avait parlé, fut un temps dans cette émission.
Alors juste vraiment, même pas un résumé, une phrase. C'est une enquête qui se passe au 15e siècle chez les Incas. Et le personnage principal, c'est un enquêteur royal qui va petit à petit essayer de découvrir une sombre histoire dans les Andes d'Amérique du Sud. On pensait qu'il y aurait une
suite. Parce qu'il y a des Andes qui ne sont pas en Amérique du Sud.
Oh, il y a les Andous. Non, bon. On pensait qu'il y aurait une suite.
Il paraîtrait qu'il en devrait en écrire une, mais bon, pour l'instant, elle est toujours... En cours, je suppose. Il a écrit d'autres romans depuis, mais pas avec ce personnage-là.
On continue. Patrick Pêchereau. Alors, toujours chez Folio Policier, pardon, j'avais oublié de le préciser. Patrick Pêchereau, on en a parlé la semaine dernière pour Soleil Noir. Et là, réédition d'un de ses, entre guillemets, polars historiques. Vous avez peut-être compris, c'est pas un de mes genres de prédilection. Mais là, c'est un bon auteur, donc à recommander. Ça s'appelle Belleville, Barcelone. Et ça fait partie de sa trilogie. Ça commence en 1938 et c'est sous fond de front populaire et de guerre d'Espagne, d'où le titre Belleville-Barcelone. Et puis évidemment, 38, les prémices de la Deuxième Guerre mondiale qui se profilent à l'horizon. Alors, chez Rivage, deux recueils de nouvelles dont on vous parlera la prochaine fois, mais surtout une réédition. David Peace, 1983. Un tableau très très noir de la société anglaise post-thatchérienne. David Peace, en fait, a choisi le roman noir pour essayer de dépeindre une fresque sociale qui commencerait dans les années 70 et qui se termine dans les années 90. Un tableau très très noir de la société anglo-saxonne. Les titres sont toujours des dates. Donc le premier 74, 1979 et maintenant 1983 en poche. Il me semble qu'il y en a
encore
après,
un quatrième.
Mais 1987, c'est tous les 4 ans, c'est ça. Ouf. Alors, pas en collection de poche, mais un livre qui m'a bien plu, bien accroché. Bon, je trouve pour ma part que c'est pas vraiment un polar. Mais il y a quand même une trame... policière. C'est un livre paru en novembre chez un petit éditeur. Évidemment, quand je dis petit, ça ne veut pas dire que c'est pas un bon, c'est tout simplement que c'est pas un des grands dont on entend toujours parler. Ce sont les éditions TME. Cela s'appelle Les Chevelus et c'est le premier roman de Benoît Sévrac. Donc c'est un livre à 18,50 €. C'est l'originalité, je trouve, de ce roman. Ça se trouve dans l'époque où se situe l'intrigue de ce roman, dans l'Antiquité. Alors dans l'Antiquité, lorsque les Gaulois étaient colonisés, pour une fois que c'est dans ce sens-là, étaient colonisés par les Romains. La période qu'on a appelée la Pax Romana. C'est une petite ville, ça se passe dans une petite ville du sud-ouest. Alors je vais essayer de dire le nom, Lugdunum Convenarum. Et ils essayent de vraiment maintenir cette paix grâce à une entente entre les édiles romains et gaulois qui s'entendent plutôt bien et on a une certaine sérénité dans cette ville qui est évidemment gâchée parce que de jeunes et riches romains sont assassinés dans de bien étranges circonstances. L'enquête piétine, tout au moins les quelques investigations que Valerius Falco, qui s'occupe des soldats là-bas, veut essayer de vraiment trouver le coupable, mais il a peu de temps parce que la légion romaine arrive avec à sa tête le profiteur. Je sais pas exactement ce que c'est comme titre, mais en tout cas, c'est un très méchant et un très gradé, Rufus Riego. Et c'est une description assez noire de cette époque avec les colonisés et les colons et ce Rufus Riego qui est intransigeant, haine de l'autochtone, on dirait xénophobe et raciste maintenant. Et ça va évidemment lui faire commettre bien des erreurs. On vous laisse découvrir la fin. Donc je recite le titre, Les Chevelus, Benoît Sévrac. Ça se passe dans le 5e siècle, voilà. Et c'est publié aux éditions TME. Je précise, collection Noire d'Histoire. J'ai encore été une fois très bavarde, donc on va peut-être passer tout de suite à la musique, Jacques.
Voilà, un petit morceau qui va nous permettre d'introduire le livre qui viendra après, de Emiliana Torini, qui est, comme son nom ne l'indique pas, une chanteuse islandaise, mais de père italien malgré tout. Et la chanson s'appelle, si je ne m'amuse, Honeymoon Child.
Ah bah, c'est égal. Schuldigung.
Vous a dit Jacques, c'est une parfaite introduction au livre dont je vais parler, parce que non seulement elle est d'origine islandaise, elle est islandaise, mais en plus le ton mélancolique va très bien au livre dont je vais vous parler. Donc c'est un livre d'Arnaldur Indridason, son quatrième roman traduit chez Métayer. Il vient juste de sortir, vous pouvez l'obtenir pour la modique somme de 19 €. Ça s'appelle « L'homme du lac ». Et le traducteur en est Éric Bourri. Donc, on retrouve dans ce livre le commissaire Erlendur, qui est le flic d'Indridason, qu'on a rencontré déjà dans son tout premier roman. Et tout commence à cause de tremblements de terre. Il y a eu beaucoup de tremblements de terre en 2000 en Islande, et ça a fait apparemment évaporer l'eau des lacs. C'est un phénomène que je ne connaissais pas. Et du coup, le niveau des lacs ayant baissé, une géologue découvre un bien étrange cadavre, enfin un squelette, hein, parce qu'il est lesté, d'abord il date des années 60, et parce qu'il est lesté d'un un émetteur qui semble bien provenir de l'Allemagne de l'Est. Alors j'ai dit qu'il date des années 60 parce que l'émetteur, il a l'air assez un ringard pour être des années 60. Et le flic d'Indridason, donc Erlendur, va très très rapidement comprendre que la clé du mystère se trouve parmi les anciens étudiants islandais des jeunesses socialistes, ceux dont les idéaux les poussaient à partir à l'université de Leipzig derrière le rideau de fer pour apprendre l'idéal communiste. Alors, comme je l'ai dit, pourquoi ? Bon, il n'est pas si génial que ça, le commissaire. C'est tout simplement parce que l'émetteur lui-même provenait de l'Allemagne de l'Est. Il a pratiquement rien. Il va rien trouver pendant des pages et des pages, mais il est toujours plein d'empathie pour les personnes qu'il rencontre, Erlendur, et là, il veut absolument ne pas décevoir une femme de 70 ans environ, qui espère la vérité quant à la disparition de son fiancé à la même époque. Donc, ce qu'Erlendur voudrait prouver, c'est que ce squelette est bien l'homme qui était son fiancé et qu'elle attend toujours, ou tout au moins dont elle veut savoir ce qu'il est devenu. En fait, dans ce roman, on n'est pas trop surpris puisque Indridason continue son voyage littéraire dans les drames passés de ses concitoyens. les Islandais, donc, que ce soit des drames personnels ou des drames collectifs plus généralement mêlés à l'histoire. C'est vrai qu'il a une grande prédilection pour les intrigues où se mêlent les ombres du passé, lourdes de secrets et de haine. Donc, ici, par contre, originalité, on sort de l'île puisque une partie du récit se passe derrière le rideau de fer. Et derrière ce rideau de fer, il va nous raconter combien de rêves et de vies brisées par l'impeccable appareil d'État de la Stasi. La qualité de ce roman, ça réside aussi dans l'écriture. Le récit alterne entre présent et passé, et l'on passe tout en douceur de l'enquête actuelle au souvenir de, entre guillemets, l'autre, celui qui est peut-être l'assassin, peut-être, celui qui donc qui se souvient, qui a souffert, et qui peut-être, je dis bien peut-être, revenu en Islande, s'est vengé. Et ce qui est vraiment machiavélique dans ce roman, c'est comment les deux voix se rapprochent insensiblement au fur et à mesure que se déchire le rideau qui va nous laisser entrevoir la vérité.
Le rideau de fer.
Ben, c'était fait exprès, mais je te remercie de l'avoir noté. Ah, c'est bien. Un peu de vivacité, que diable. Donc justement, c'est un climat très très lourd qui s'installe. Et par rapport à ce que j'en ai dit, je voudrais pas qu'on croie que c'est un livre très lent et qu'on va avoir du mal à poursuivre, parce que c'est redoutablement efficace. Il a un style complètement dépourvu d'effet, sobre à l'extrême, mais qui est transparent à la douleur humaine. Et on est en complète empathie avec les personnages et l'histoire. Vous l'avez compris, très bon roman. L'homme du lac, d'Arnaldur Indridason, traduit de l'islandais par Eric Bourri. J'ai pris beaucoup de temps, Jacques. Tu as plus que 3 minutes pour nous parler.
D'un roman de Thomas Kelly, qui s'appelle Les bâtisseurs de l'Empire, qui est paru aux éditions Rivage Thriller, donc en grand format, qui est traduit par l'excellent Pierre Bondil. Donc c'est le troisième roman, après Le Ventre de New York et Raquette, et Thomas Kelly continue avec ce roman-là à nous raconter son histoire de New York à travers les grands chantiers. New York, qui est aussi la ville du roman noir par excellence. Et là maintenant, on est en 1930, la crise de 29 vient à peine d'être finie, et les promoteurs et un maire très ambitieux veulent frapper un grand coup et lancent la construction du plus grand building du monde, enfin du moins à l'époque, celui qui sera tout à fait bientôt l'Empire State Building. Parmi les ouvriers qui montent à un rythme infernal d'un étage par jour le gratte-ciel, il y a Briody, qui est Michael Briody, qui est un combattant républicain irlandais, fraîchement débarqué d'Irlande donc, à laquelle Irlande est en guerre civile. Briody, sur le chantier, c'est le roi du rivet. Mais aussi la nuit, c'est un clandestin de l'IRA qui transporte armes et autres matières interdites vers les quais pour approvisionner les républicains de son pays. On voit par derrière l'histoire du bâtiment qui monte tous les jours d'un étage. On assiste à la guerre entre les mafias Rital et les mafias Paddy, à la prohibition, puisqu'on est en
Paddy, c'est-à-dire irlandaise, pardon.
Irlandaise. À la prohibition, on est en 30, hein, la prohibition s'arrête en 35. Donc, évidemment, trafic d'alcool. Les trafics d'alcool sont florissants. Et comme je disais, c'est la ville du roman noir. Donc, roman noir, corruption. Et Raquette, le maire démocrate, c'est un démocrate, mais il n'est pas du tout exclu du raquette et de la corruption,
ça
bien
alors.
Au contraire. Et on a beau monter tous les jours d'un étage, je répète, parce que le rythme est bien ça dans, c'est bien ça dans le roman, à chaque fois on monte plus haut, mais en fait plus on monte, on a toujours cette odeur nauséabonde qu'est la compromission des gens de pouvoir.
Une belle métaphore.
Voilà. Et malgré tout, il y a une histoire d'amour impossible entre Michael, le riveteur, et Grace, qui est une peintre, mais qui est aussi la maîtresse du mafieux local, Johnny Farrell, qui se trouve être l'homme de main du maire. Voilà, donc je vous laisse lire ce roman. C'est passionnant, et il y a toujours cet hommage aux ouvriers qui ont bâti cette ville de New York, ouvriers aussi bien irlandais qu'italiens, ou à l'époque, il y avait surtout que cela. Voilà, c'est magnifique. Thomas Kelly, Les bâtisseurs de l'Empire.
Chez Thriller, un très grand roman.
À bientôt.
Agora vous donne l'heure. 19h sur Agora FM. Bon appétit à tous.
De l'info locale à l'info internationale, il n'y a qu'un pas. C'est RFI.
À Paris, 18h en temps universel.
Jean-François Cadet.